Hélène Sauvignon avec Didier Mélière.
Durant cette série de 10 entretiens, Didier Mélière nous a initiés à la communication orale en public. Cela concerne les prêtres, mais aussi tous les laïcs qui font des exposés sur la foi. Nous avons appris successivement les 5 clés pour toucher les intelligences et les cœurs. Nous avons appris à nous limiter à un objectif précis et à utiliser des outils de communication. Les outils ACMA ont été éprouvés et perfectionnés lors d'ateliers auxquels ont participé plus d'un millier de prédicateurs. La théorie ne suffit pas. Nous devons nous entraîner, si possible, devant une vidéo. Nous voici au dernier entretien. Vous voulez nous ouvrir à la manière de présenter la Bible, sa lecture croyante, selon l'expression de Benoît XVI. Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que notre foi a à se nourrir de la Bible et à la faire connaître. Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ, écrivait saint Jérôme il y a 1600 ans. C'est pourquoi le pape François, dans la joie de l'Évangile, insiste. Il faut se former continuellement à l'écoute de la parole. Mais ces Écritures ont donné lieu à des interprétations contradictoires. Pour nous catholiques, les étudier doivent se faire à la lumière des enseignements de l'Église, fruit des travaux des théologiens durant 2 millénaires. Il faut donc travailler les Écritures avec les notes de bas de page de la TOB, la traduction œcuménique, ou de la Bible de Jérusalem, mais aussi avec des guides comme « Pour lire l'Ancien Testament »,« Pour lire l'Ancien Testament » de Gérard Billon et Philippe Gruson. Mon but ici est de vous alerter contre 2 erreurs trop fréquentes aux effets redoutables. La première erreur consiste pour chaque texte à ne pas tenir compte de l'intention de son auteur et du contexte dans lequel il a été écrit et souvent réécrit. Cela conduit forcément à des anachronismes ou à des interprétations erronées. Écoutons le pape François. Si un texte a été écrit pour consoler, il ne devrait pas être utilisé pour corriger des erreurs. S'il a été écrit pour exhorter, il ne devrait pas être utilisé pour instruire. S'il a été écrit pour enseigner quelque chose sur Dieu, il ne devrait pas être utilisé pour expliquer différentes idées théologiques, etc. La deuxième erreur consiste à présenter comme historique certains textes de la Bible dont on sait depuis plus d'un siècle qu'ils ne le sont pas. Les archéologues, en déterrant des sites et 500 000 de tablettes, ont confirmé que beaucoup d'événements décrits dans l'Ancien Testament ont été légendarisés dans un double but, l'un terrestre, forger l'identité juive, et l'autre spirituel, faire découvrir l'unité de Dieu, son immensité, son amour pour nous et son intervention dans notre histoire. Il faut donc impérativement associer exégèse et connaissance historique. Comment a-t-on pu oublier si longtemps que déjà au début du IIIe siècle, Origène enseignait que les textes comme la Genèse sont de grandes paraboles théologiques ? Qui sera assez sot, écrit-il, pour penser que, comme un agriculteur, Dieu a planté un jardin en Éden du côté de l'Orient et dans ce jardin un arbre de vie visible et qui pourrait donner la vie à celui qui a goûté de son fruit avec des dents corporelles ? Tout cela exprimé dans une histoire qui semble s'être passée, mais qui ne s'est pas passée corporellement, indique de façon figurée certains mystères. Fin de citation. Des livres, des revues, des médias divers ont vulgarisé les travaux des archéologues. Aujourd'hui, actuellement, tout le monde le sait. Les Hébreux s'intéressaient au sens et non à la vérité historique. De plus, Abraham a vécu plus de 1000 ans avant l'utilisation de l'écriture, et Moïse, plus de 300 ans avant. Plus on se rapproche de l'époque moderne, et plus la vérité historique est respectée. Celui qui fait comme s'il ne savait pas est soit un ignorant, soit un imposteur. Mais il y a plus grave, comme l'a écrit Benoît XVI dans Verbum Domini. Le littéralisme mis en avant par la lecture fondamentaliste représente en réalité une trahison, aussi bien du sens littéral que du sens spirituel, ouvrant la voie à des instrumentalisations de diverses natures. Le fondamentalisme fuit l'étroite relation du divin et de l'humain dans les rapports avec Dieu. Il ajoute, pour cette raison, il tend à traiter le texte biblique comme s'il avait été dicté mot à mot par l'Esprit, et n'arrive pas à reconnaître que la parole de Dieu a été formulée dans un langage et une phraséologie conditionnée par telle ou telle époque. Il ajoute, la véritable réponse à une lecture fondamentaliste est la lecture croyante de l'Écriture sainte pratiquée depuis l'Antiquité dans la tradition de l'Église.
Question de vie, Hélène Sauvignon s'entretient avec Didier Mélière.
Alors, en quoi ces textes sont-ils inspirés ?
La Commission biblique pontificale a répondu dans « Inspiration et vérité de l'Écriture », un livre paru en 2014. Dieu est l'auteur de ces livres, mais à travers des hommes qu'il a choisis. Ceux-ci n'écrivent pas sous la dictée, mais sont de vrais auteurs, qui utilisent leurs propres facultés et leurs propres talents. Sur l'Ancien Testament, on y lit que les textes divers pour ce qui concerne leur datation, leur lieu de composition, au-delà de leur contenu spécifique et de leur style littéraire particulier, présentent de manière concordante un unique message fondamental. Dieu nous parle. L'unique et même Dieu cherche l'homme dans la diversité et la multiplicité des situations historiques. Il le rejoint et lui parle. Et le message divin divers dans sa forme du fait des circonstances historiques concrètes de la révélation tend constamment à susciter en l'homme une réponse d'amour. Fin de citation. Les évangiles eux aussi contiennent des textes divers. Les paroles du Christ sont vraies, non dans le détail, mais dans le sens retenu par les témoins. D'autres récits, tels que la tentation au désert, matérialisent des expériences spirituelles. La Commission biblique pontificale conclut « La perspective qui vient d'être définie ne diminue pas l'adhésion croyante à la parole de Dieu. Elle en promeut, au contraire, une appréhension plus profonde puisqu'elle révèle la manifestation de Dieu dans l'histoire. La tâche de l'interprète consiste alors à éviter une lecture fondamentaliste de l'Écriture et à situer les différentes affirmations du texte sacré dans leur contexte historique en fonction des genres littéraires alors en usage. » Fin de citation. Je ne peux ici qu'effleurer ce sujet. Pour un résumé plus détaillé, je vous invite à lire le chapitre correspondant du livre « Homélie et prise de parole publique »
qui a été édité chez Salvatore et qui ne coûte que 22 euros. Nous voici arrivés à la fin de ces 10 entretiens. Quel message final souhaitez-vous nous laisser, Didier Mélière ?
En moins d'un siècle, une grande partie de nos contemporains se sont éloignés de Dieu. Pour eux et pour le monde, il nous faut retrouver l'élan évangélisateur des premiers chrétiens. Trop longtemps, nous avons caché notre foi, comme si nous en avions honte. Ah, le respect humain. Il faut totalement changer cet état d'esprit. La mission d'annoncer n'est pas optionnelle. C'est le devoir de tout baptiser. Pour redonner envie du Christ, il faut nous former sur le fond et aussi simultanément, apprendre à transmettre ce que nous savons, ne pas avoir peur, oser, dans la force de notre foi et le respect des convictions des autres. Pour intervenir de façon attractive et instructive, nous devons perfectionner notre manière de communiquer. Prions, mais simultanément, travaillons. Creusons les fondamentaux de notre foi, mais simultanément, entraînons-nous à bien la transmettre. Nous pouvons nous perfectionner soit en nous inscrivant à des ateliers interactifs comme le service d'optimisation des homélies ou le 5P, soit en s'entraînant seul avec le livre « Homélie et prise de parole publique, 30 exercices pour se perfectionner ». On en trouvera des extraits sur le site clépouromélieureuse.org. Si possible, filmons nos prestations pour corriger nos défauts, mieux nous communiquerons et plus nous attirerons à Jésus-Christ.
Un grand défi à relever, l'Église nous a été confiée, relevons nos manches et transmettons notre foi. Merci Didier Mellière.